Podcast, la première.
Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres, je vous aime.
Comme on le fait, l'amour comme on en rêve, l'amour comme on n'ose pas toujours le dire.
C'est bon, oui, oui.
Oh. C'est bon, c'est tous les samedis de 22h à minuit et aussi la nuit du dimanche au lundi.
Parlez-moi d'amour, une émission de Gabriel Stefanski.
Amoureuses et amoureux d'ici et d'ailleurs, bonsoir ou belle nuit. Vous le savez, à Parlez-moi d'amour, nous prenons modestement le pouls palpitant de la planète Eros en perpétuel mouvement. Et il semblerait bien qu'en ce 21e siècle, elle prenne un grand tournant, cette planète amoureuse. Décloisonnement des genres, bousculement des normes, des tabous et des codes amoureux, remise en question de l'exclusivité monogame au profit du polyamour qui consiste à vivre des amours pluriels, concomitante. Polyamoureuse depuis 35 ans, la journaliste et écrivaine Françoise Saint-Père s'épanouit dans les relations humaines et affectives, voire sexuelles, mais pas obligatoirement, qu'elle entretient avec plusieurs amants, amis, amoureux. Son ouvrage « Aimer plusieurs hommes » trouve encore mieux sa place aujourd'hui qu'en 2002, lors de la première édition, tant le polyamour s'avère pour nombre d'amoureux une alternative au couple traditionnel, un mouvement qui risque de prendre de l'ampleur dans un monde où nous sommes assoiffés d'autonomie, d'indépendance, de liberté et de réalisation de soi. Dans un hôtel cosmopolitain, rencontre durant cette première heure de Parlez-moi d'amour avec l'une des pionnières du polyamour, Françoise Saint-Père. Françoise Saint-Père, qui répond une fois de plus à l'invitation de Parlez-moi d'amour, merci beaucoup.
Merci de me recevoir.
Nous allons parler du polyamour aujourd'hui, un sujet qu'on n'a pas encore évoqué dans Parlez-moi d'amour, parce que nous nous étions rencontrés, mais on a parlé de vous, de votre livre, et à l'époque c'était la sortie du film La Grande Amoureuse, qui est sorti au Québec, ça tombe bien, nous parlons aux amis québécois aussi, nous sommes relayés par Radio-Canada. Bon, alors depuis ce film, réédition de votre livre « Aimer plusieurs hommes », qui à l'époque avait fait petit scandale.
Oui, ce livre est celui qui m'a le plus apporté de lettres et de réactions et d'invitations à des émissions, télévision, radio, et de réactions un petit peu d'autres pays aussi, la Belgique et le Canada notamment, mais même un petit peu ailleurs, des personnes qui l'avaient découvert. Et c'est un mouvement qui, je crois, s'internationalise un petit peu.
Vous vous sentez pionnière en la matière? En tout cas, le mouvement a fait un cheminement parce que on a retrouvé des tas de littérature ancienne qui en parlait. Vous en parlez sur votre blog, hein. Vous avez un blog, on le citera en fin d'émission. Mais vous, en tant que femme qui a osé parler de sa propre expérience, vous êtes une pionnière en la matière.
Je crois que le fait d'avoir écrit sur mon expérience, et puis en tant que femme, parce qu'au fond, un homme aurait écrit et aimé plusieurs femmes, tout le monde aurait dit c'est un séducteur, et puis quel intérêt. Le fait qu'une femme puisse dire qu'on pouvait aimer et que ça ne soit pas non plus que sexuel, qu'il y ait vraiment du sentiment, c'était nouveau. Et qu'elle le dise sans se poser non plus en croqueuse d'homme ou en séductrice. Ça a changé, mais effectivement, j'ai retrouvé dans les archives de mon père, magistrat, un livre datant de 1926 et qui s'appelle « L'amant légitime », où il disait que de toute façon, il fallait... ça s'appelait un essai sur le mariage polygamique de demain, où il disait qu'il était tout à fait naturel qu'avec les vies que nous menions, l'augmentation de la durée de vie, on ait plusieurs amours et qu'il pouvait arriver que ce soit des amours concomitantes. Et puis une de ses lectrices, qui était je crois aussi écrivain, lui a dit, mais écoutez, pourquoi l'avez-vous appelé ça l'amante, la maîtresse légitime? Et du coup, ils ont fait ensemble un second livre qui s'appelait L'amant légitime, où elle disait que les femmes aussi avaient des désirs. Et c'était 1927.
Donc il y a quand même presque un siècle, hein, finalement.
Voilà,
oui,
tout à fait.
Ce qu'il y a de singulier chez vous, c'est que vous vous êtes livré dans cet ouvrage, Aimer plusieurs hommes, et que vous êtes livré sans tabou, mais en même temps, vous ne faites pas un plaidoyer de cette façon d'envisager les relations humaines et amoureuses.
Et je crois que la logique que j'ai dans ma vie, c'est de me dire que j'ai envie d'enlever les étiquettes et de ne pas promouvoir de modèle. Et pour faire un parallèle, la monogamie vous impose un modèle, on l'impose à tout le monde, et c'est un modèle très fermé, puisque c'est, en théorie, un seul partenaire exclusif pour toujours. Tandis que ce qu'on appelle le polyamour, le lutinage ou les amours pluriels, ouvre les portes. Mais vous n'êtes pas du tout obligé en permanence d'avoir plusieurs amours dans votre vie. C'est simplement laisser la porte ouverte au possible, ouvrir les possibles, mais on a des périodes de monogamie, on a des périodes de solitude, on a des périodes où on aime seulement deux personnes et d'autres où au contraire on se sent libertine. Justement, le fait d'ouvrir les possibles fait que ça n'est pas un modèle, c'est chacun le vit de façon différente. Et je crois qu'en plus je parle notamment avec des jeunes gens et jeunes femmes, parce que c'est un mouvement qui touche de plus en plus de jeunes, plus ils sont à la recherche de quelque chose qui sera en fait la vie amoureuse et sentimentale qui convient à moi, avec ma personnalité, avec les gens que je rencontrerai. Donc une alchimie particulière à chaque fois.
Vous venez de le dire, c'est un mouvement qui est en train d'éclore. Un peu partout, on entend et on voit des sites. Et les sites sont assez récents, les sites de polyamour.
Oui, les sites de polyamour ont débuté en 2009, début 2009. Alors, il y a eu une éclosion, puisque polyamour.info en France, polyamour.be en Belgique, polyamour.ca au Canada, enfin au Québec, je pense, ont explosé pratiquement en même temps et d'ailleurs ont des relations assez fréquentes entre les membres. Alors, quand je suis allée voir ces sites, d'une part, j'ai vu que beaucoup avaient lu mon livre, donc effectivement, ça avait dû mûrir un petit peu comme cela. Et puis aussi que ça touchait des générations beaucoup plus jeunes. Au départ, on me prenait un peu pour un reliquat des années gauchisantes des 70s, alors que là, non, ce sont des jeunes qui se disent, après tout, on a connu beaucoup de divorces autour de nous, on sait aussi que l'amour, c'est pas facile, qu'ils sont aussi élevés dans une société de précarité, et donc ils savent que les amours ne sont pas si évidentes que cela a mené, et puis ils n'ont plus envie de se sentir enfermés, je crois. Mais par contre, ils sont extrêmement attentifs à toutes leurs relations. Et ça, je crois que si on devait définir les petits lutins ou pluriamoureux, ce sont des gens qui s'interrogent beaucoup sur les sentiments, sur les relations, qui s'interrogent beaucoup sur leurs responsabilités, notamment en tant que parents éventuels, avec des questions juridiques, c'est-à-dire que se passera-t-il, par exemple, si j'ai des enfants de plusieurs hommes. Et une chose intéressante aussi, c'est que récemment, lors d'une réunion du Café Polyamoureux de Paris, une jeune étudiante est venue et sa thèse de troisième cycle va être consacrée aux conséquences juridiques et sociologiques des amours pluriels. Ce qui veut dire que ça rentre dans l'officiel, quoi.
Ça veut dire, François Saint-Père, que le modèle de la monogamie n'est plus le modèle idéal pour construire nos relations ?
Je crois que surtout le modèle de la monogamie convient à un certain nombre de gens qui sont heureux et ne regarderont jamais d'autres personnes et qu'ils auraient bien tort d'en changer si ça leur convient. Ce que je déplore, c'est qu'on veuille imposer ce modèle à tout le monde comme s'il pouvait convenir à tout le monde. Mais je ne cherche pas non plus du tout, je vous l'ai dit tout à l'heure, à dire tout le monde doit être polyamoureux, parce que c'est une telle démarche intellectuelle. Au niveau de l'ego, par exemple, parce que c'est une démarche par rapport à soi-même de se dire je peux ne pas être l'unique et ça ne m'empêche pas d'être aimé, ce n'est pas si facile, par rapport à la jalousie, par rapport au regard des autres. Donc si on n'est pas profondément convaincu, on peut toujours essayer un jour et on s'amusera en se disant tiens, je suis contente, j'ai des aventures et ça se passe bien dans mon couple. Mais si les gens ne sont pas convaincus que c'est une autre démarche, une autre logique de pensée, ils abandonneront au bout de quelques années.
François Saint-Père, le polyamour, est-ce que c'est pas un phénomène de mode aussi ? Est-ce qu'on n'a pas essayé toutes sortes de modèles, justement, la monogamie, et puis avoir des amants comme ça de passage, ou plus ou moins l'infidélité régnait, mais on fermait les yeux de façon tout à fait hypocrite pour garder son rang social, parce que ça rentre aussi dans des normes sociales, cette histoire-là de monogamie. Et là, est-ce que tout à coup, justement, cette explosion de sites et de personnes qui prétendent ou qui se revendiquent du polyamour n'est pas un phénomène de mode, on essaie autre chose?
Alors, je ne crois pas qu'il s'agisse d'une mode dans le plan des comportements. Par contre, c'est une mode médiatique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un média en parle, et surtout si c'est un média un petit peu bien coté sur la place, tout le monde vous poursuit. Et il y a eu un article dans Le Monde, le magazine, et Le Monde, c'est une référence en France. Eh bien, aussitôt, en l'espace d'un mois, j'ai été invitée sur Europe 1, sur Direct 8. Là, il y a une jeune femme qui veut faire un documentaire. Elles sont deux ou trois à vouloir faire des documentaires sur les amours pluriels. Donc là, il y a une mode, même Madame Figaro, qui est quand même un journal bon chic, bon genre et très bourgeois, parle des amours pluriels. Ce qui veut dire que l'idée fait son chemin dans des couches sociales qui n'y pensaient pas du tout. Par contre, je suis persuadée, puisque j'ai reçu des lettres de femmes qui m'ont dit « mais moi, ça fait 10 ans ou 15 ans que j'ai envie de ça, je le vis mais en cachette », c'est-à-dire que pas tout à fait dans nos idéaux qui sont des idéaux de franchise, mais en même temps avec des sentiments avec plusieurs personnes en essayant de tout concilier. Simplement, le fait que j'ai écrit les a déculpabilisées parce qu'elles avaient l'impression d'être anormales. Mais je crois que ça existe quand même depuis longtemps et que ça correspond à une aspiration d'une vie plus harmonieuse, d'une vie où le couple n'est pas un enjeu de rapport de force et d'affrontement.
En même temps, il faut être libéré de toute contingence normative.
Ah oui, tout à fait. Je pense que pour être un bon amoureux pluriel, il faut arriver à se débarrasser de tout ce qu'on a eu dans l'éducation, que ce soit les contes de fées avec le prince charmant, ou pour les garçons, le fait de se dire « je possède cette femme et elle est à moi ». Et je vais même vous dire en confidence qu'il y a une personne que je n'ai pas réussi totalement à convaincre, c'est mon mari. Nous vivons comme cela depuis 35 ans. Il me dit intellectuellement « je comprends parfaitement ta démarche, je l'approuve ». Il l'a vécu, mais lui, dans sa tête, il l'a davantage vécu comme une façon agréable de pouvoir avoir des relations amoureuses extérieures sans se faire gronder, sans devoir se cacher, que comme une véritable remise en cause de ses envies, j'allais dire de macho. Et c'est vrai, et je ne lui en veux pas d'ailleurs, nous arrivons à vivre cela comme ça, parce que c'est dans sa nature et je n'ai pas non plus la prétention de changer la nature des gens. Donc on fait avec, et c'est justement ce qui est intéressant dans les amours pluriels, c'est que même quand les deux éléments d'un couple ou d'amoureux ne sont pas exactement sur la même longueur d'onde, ils cherchent ce qui peut les réunir plutôt que ce qui peut les détruire.
Alors, vous avez l'air d'en parler avec beaucoup de joie et de volupté, et pourtant, revenons à votre ouvrage qui vient d'être réédité dans une maison d'édition qu'on ne connaît pas, Autre Monde au pluriel.
Alors, c'est une maison d'édition que je viens de faire avec mon mari, justement, alors où il n'y aura pas du tout que mes livres. Nous venons de sortir un très joli roman qui s'appelle Le CDI de Dieu. Et pour vous montrer que je ne suis pas sectaire, c'était une histoire d'amour absolument exclusive entre un monsieur et une dame. Et l'homme lui fait « tu ne dois aimer que moi ». Et elle lui répond « bien sûr, car on attend tout de l'homme qu'on aime ». Donc, c'est vous dire si je ne suis pas fermée à d'autres modes d'expression. Mais c'était tellement joliment écrit et tellement plein d'imagination que je ne voulais pas passer à côté de ce manuscrit. Alors donc, Autre Monde, qui est uniquement diffusé sur notre site, hein, www.autremonde.autremonde au pluriel diffusion au singulier en un seul mot. .fr. Donc, je l'ai réédité moi-même parce que il avait été réédité plusieurs fois, trois fois aussi bien en poche que dans la collection grand format. Les éditeurs voulaient passer à autre chose et donc j'ai pu récupérer mes droits et je l'ai réédité parce que plein de gens sur Internet le cherchaient en disant « mais on n'arrive plus à trouver ce livre, il est épuisé ». Voilà. Et du coup, je l'ai actualisé puisqu'il a 8 ans de plus. J'ai pu rajouter beaucoup sur les enfants, qui est quand même une vraie préoccupation des amoureux pluriels, et sur la jalousie parce que dans ma première version, j'étais tellement enthousiasmée par ce mode de vie, que j'avais un petit peu gommé les difficultés. Là, j'ai beaucoup plus accentué les difficultés qu'on peut rencontrer.
Voilà, alors ça, c'est bien ce que vous dites, parce que ça rejoint la question que je voulais vous poser avant ce détour, pour préciser que c'était une nouvelle maison d'édition. Dans cet ouvrage, même dans la première édition qui date de 2002, vous évoquez quand même les difficultés que vous avez eues, et les troubles, et vous avez été mal de ce choix-là, que vous assumez complètement, mais pour lequel le cheminement n'a pas été aussi joyeux ni simple que ce que vous voulez bien laisser entendre aujourd'hui.
Alors, je n'ai jamais dit que le cheminement était simple. Je dis le chemin est ardu, mais il vaut la peine. Et je pense qu'il vaut la peine parce que, de toute façon, tout chemin de vie, ce qui compte, c'est le chemin, ce n'est pas ce qu'il y a au bout du chemin. C'est un principe bouddhiste et je suis assez d'accord. C'est que le fait, justement, d'explorer une voie qui n'était pas, évidemment, balisée, où il fallait tout explorer, où il fallait découvrir ses propres fragilités ou les fragilités des autres, de l'autre des autres, c'était très intéressant. Et quelque part, d'ailleurs, par rapport, par exemple, au couple que je forme déjà depuis plus de 35 ans avec le même homme, je pense qu'on se serait peut-être quitté si on n'avait pas arpenté ensemble ce chemin, parce que le fait d'affronter ensemble des difficultés, de voir aussi ce qui collait, ce qui ne collait pas, d'être beaucoup plus attentif finalement l'un à l'autre, ça nous a sauvé de la monotonie dont se plaignent tellement les couples monogames. Mais par contre, c'est vrai que parfois on se pose des questions, que parfois on tombe très amoureux et qu'on a une petite envie qui revient de prince charmant, et tout en sachant que c'est assez illusoire. Alors moi, j'ai un truc pour ça, je me dis, bon, t'es dans ta période hormonale, vis là, et puis regarde ce qu'il en sera dans 6 mois ou 1 an. Et à chaque fois, effectivement, au bout de 6 mois, 1 an, cette période de grande passion se calme et on voit ce qui reste de l'amour, s'il doit continuer ou non. Et j'ai quand même de la chance parce que la majorité des hommes que j'ai aimés sont encore de ma vie, sauf ceux qui sont morts.
Comment est-ce qu'on peut combiner tout ça, aimer plusieurs hommes, Françoise Saint-Père, dans sa vie et ne pas hiérarchiser finalement, le polyamour, on partage ou on donne de l'amour successivement à d'autres hommes, comment est-ce qu'on envisage ça sans que ça soit jugé, ça l'est encore, beaucoup trop bien sûr par la société, mais sans que ça vous déséquilibre, parce que vous avez l'air de dire qu'au contraire ça vous a fait grandir énormément.
Je crois que le principal avantage que j'ai tiré de ce mode de vie, c'est pas du tout d'avoir plein d'hommes dans ma vie, c'est de savoir vivre seul. Mm-hmm. Ça peut sembler paradoxal, mais je pense que pour réussir ce mode de vie, il faut prendre confiance en soi. Parce que si on n'a pas confiance en soi, aux premières heures, au premier amour qui marchera pas, au premier chagrin, on s'écroulera. Mm-hmm. Donc il faut vraiment, moi c'est ce que ça m'a appris à aimer la solitude, et je l'aime de plus en plus d'ailleurs au fur et à mesure que le temps avance. Et pour se mettre à aimer les gens, pour ce qu'ils vous apportent et pour ce qu'ils sont, et pas pour combler un manque. Alors déjà, c'est complètement à l'inverse de la monogamie où tant de femmes vous disent « Oui, il me prend pour un meuble, je n'existe plus, mais j'ai besoin de ma béquille. » Enfin, en quelque sorte, il y en a même qui le disent comme ça. Il y a le proverbe grec où les femmes disent « J'ai lié mon âne, j'ai plus besoin de faire attention. » C'était quand elles prennent du poids après le mariage, elles se disent « Bah oui, mais maintenant, ça y est, j'ai ce qu'il me faut. » Et bien justement, le polyamour, c'est pas cette vision matérialiste des relations, c'est plus une vision, je dirais, de curiosité pour l'humain. Alors, comment on le fait? Je vous dis, on n'aurait pas de mode d'emploi. J'ai écrit un autre livre qui s'appelle « Le guide des amours pluriels » aux éditions Pocket, qui répond de façon très pratique à plein de questions qui vont depuis la plus basique, une amende téléphone alors que je suis avec ma compagne, comment dois-je réagir, jusqu'à, mais au fond, tout ça, est-ce que ça ne cache pas un grand vide affectif? Donc, il y a des interrogations de toutes sortes. Mais au fur et à mesure que je vais explorer les sites et ce qui s'y passe, je m'aperçois qu'il n'y a aucune recette. Chacun adapte l'idée d'aimer au pluriel. Le principal, c'est de dire oui, on peut aimer au pluriel, c'est-à-dire aimer plusieurs personnes en même temps, et ça n'a rien d'anormal. C'est presque le fait de se dire qu'on ne peut aimer qu'une seule personne toute sa vie qui me semble bizarre maintenant. Et à partir de là, c'est selon les gens. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui cultive ce que j'appelle les amitiés amoureuses, c'est-à-dire l'amitié plus le désir. Je trouve que c'est la plus belle définition de l'amour. Alors c'est assez simple parce que je n'ai pas besoin de voir les gens en permanence et donc les emplois du temps s'organisent bien. Il y a d'autres personnes qui préfèrent mener des doubles vies ou des triples vies, c'est-à-dire d'avoir pratiquement trois vies conjugales. Moi avec une ça va. Mais voyez, donc chacun s'organise comme il veut. J'ai une femme que je vais voir d'ici quelques semaines qui m'envoie régulièrement des photos, des tablés où elle est là avec les hommes de sa vie qu'elle aime. Voilà, donc, et curieusement, d'ailleurs, je ne sais pas du tout si les hommes de sa vie ont d'autres femmes, mais enfin, elle a l'air parfaitement épanouie avec les différents hommes de sa vie. Voilà, chacun a son mode d'expression.
Ça veut dire qu'il faut quand même cartographier de nouveaux territoires pour pouvoir organiser sa vie sociale, familiale, puisque vous êtes maman de jeunes filles aujourd'hui. Donc, il faut trouver des nouveaux codes.
Les nouveaux codes, je pense que c'est au fond des codes qu'on pourrait très très bien aussi, appliquer à la monogamie, c'est-à-dire le respect. Il faut vraiment respecter les gens qu'on aime et notamment tenir compte des moments où parfois ils se sentent plus faibles. Actuellement, il y a un jeune homme qui me pose la question, il est très amoureux d'une femme, mais qui elle est foncièrement monogame. Il lui a expliqué qu'il était amoureux pluriel, mais foncièrement aussi, c'est-à-dire c'est une vraie conviction. Et il essaye de trouver comment concilier ces deux oppositions. Et il va essayer, mais il est très attentif à ses réactions, tout en lui ayant expliqué « Je t'aime, j'ai envie de faire un bout de chemin, et peut-être un long bout de chemin avec toi, mais je ne peux pas non plus me laisser entamer dans ma personnalité. » Donc c'est vrai que ce sont des négociations. Mais ça, on devrait l'avoir dans les couples monogames. Le fait de faire attention à l'autre, le fait de se dire « Bon, on ne pense pas pareil, ça ne veut pas dire que l'un a tort et l'autre raison, il faut essayer de trouver un terrain d'entente. » Et puis, par rapport aux enfants, c'est pareil, ce sont les mêmes codes. Je ne cache pas à mes filles que j'ai une vie amoureuse multiple, mais elles n'ont aucun détail sur cette vie amoureuse parce que la sexualité ou même les amours des parents ne regardent pas les enfants, pas plus que je ne les interroge sur leurs amours, sauf si elles souhaitent m'en parler, bien sûr.
Vous parlez de sexualité, justement. Est-ce que c'est une question uniquement sexuelle, le fait de vivre des amours pluriels ?
Eh bien, curieusement, je trouve même que parfois les lutins ne sont pas assez sexuels. Ils sont tellement dans leur recherche amoureuse et dans leur recherche de sentiments. Ce sont des gens souvent très tendres. Je dirais que ce sont des hommes qui ont une part féminine qu'ils osent exprimer. En tout cas, pour une grande majorité des amoureux pluriels. Alors, bien sûr que le sexe intervient et que la première rencontre, il y a forcément une base de désir. Mais c'est tout à fait loin d'être leur première préoccupation. Ils en parlent, mais beaucoup moins que certains monogames obsédés. Et je pense aussi qu'ils en parlent moins parce que n'ayant pas de barrière, n'ayant pas d'interdit, ne se disant pas « Oh là là, j'ai ce désir, mais j'ai pas le droit d'y aller. » Et quand vous n'avez pas le droit d'y aller, vous mourrez d'envie d'y aller. Eh bien, finalement, ils sont moins obsédés. Et on peut passer... Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de passer des nuits avec des gens amoureux pluriels sans qu'on fasse l'amour pour autant. On était dans les bras l'un de l'autre, très tendre, et il ne se passait rien de plus. Mais ça aussi, c'est agréable d'avoir toute une palette d'expression de sa sensualité.
Il y a une enquête, hein, d'ailleurs, américaine qui confirme, une enquête de 1982, je pense, qui confirme que il y aurait des rapports sexuels moins fréquents dans les personnes qui vivent le polyamour, parce que justement, c'est l'échange, la communication, la chaleur. Alors on peut se caresser, mais on peut ne pas aller jusqu'au bout, comme vous venez d'en témoigner.
Oui, et c'est drôle, parce que j'en discutais avec un ami récemment qui, lui, serait plutôt célibataire, endurci avec de temps en temps une histoire, et alors qu'il ne comprenait pas cela du tout, qu'il m'en fait, ils sont complètement idiots, s'ils tombent dans ton lit, pourquoi ? Ben, j'ai dit, ben, parce qu'il y a plein d'autres choses à faire que strictement un coït génital. Et nous n'avons rien contre non plus, mais on suit l'évolution du désir. Enfin, ils sont complètement idiots, s'ils tombent dans ton lit, pourquoi ? Ben, j'ai dit, ben, parce qu'il y a plein d'autres choses à faire que strictement un coït génital. Et nous n'avons rien contre non plus, mais on suit l'évolution du désir. Et puis en plus, on suit aussi le fait qu'on peut très bien avoir une relation très passionnelle et très sexuelle avec quelqu'un. Après, le désir s'apaise, on vit autre chose avec, qui peut même être purement de l'amitié, et puis on peut le revoir quelques années après que le désir revienne. C'est-à-dire qu'on tient compte des saisons des amours et du désir, ce qui n'est pas désagréable.
François Saint-Père, est-ce qu'on mélange alors sa vie officielle, conjugale, familiale, avec les personnes que l'on rencontre ?
Alors je pense que là aussi chacun fait comme il le souhaite. Bon, moi forcément, puisque j'ai été beaucoup médiatisée sur le sujet, il y a eu des mélanges. J'ai rencontré d'ailleurs des amis de mon mari, il a rencontré certains hommes que j'aimais, pas tous, loin de là. On n'en parle pas non plus forcément tout le temps, et surtout depuis le temps on a d'autres sujets de conversation, Dieu merci. Et puis moi, de plus en plus, je pense que c'est bien de protéger les territoires. Parce que même si on n'est pas jaloux, même si on comprend très bien les amours pluriels, je pense que c'est un manque de savoir-vivre que de parler de ces autres hommes avec quelqu'un avec qui on est. Quand on est avec lui, on est complètement avec lui. On l'aime et on lui dirait « Tiens, hier, je me suis éclatée comme une folle avec un tel. » Je trouverais ça d'un manque de délicatesse totale. Et de la même façon, s'il m'arrive de découvrir qu'un homme que j'aime a une amie, ça ne me dérange pas, mais si par contre il m'en parle, ou au contraire qu'il me dit non, j'ai personne, et que je découvre des rouges à lèvres et des pots de crème sur sa tablette, je dis mais pourquoi me mentir ? On peut être discret et ne pas trop dire. Voilà, je crois que c'est un peu, c'est toujours du savoir-vivre, c'est toujours de l'attention aux autres. Ne rien cacher, mais ne pas non plus étaler sa vie privée.
Mais ça veut dire qu'on peut recevoir ses amants ou ses amantes dans la maison où on vit avec la personne qu'on a initialement choisie ? Je pose des questions comme ça parce que je sais qu'il y a plusieurs types de polyamour et que chacun se débrouille un peu avec ça comme il peut et comme il a envie de le faire aussi.
Ah ben, il y a toutes sortes de modèles. Enfin, je sais qu'aux États-Unis, par exemple, le polyamour est beaucoup plus communautaire. Il y a beaucoup de ce qu'on appellerait aujourd'hui en France de la polygamie sans qu'il y ait de mariage légal d'un homme vivant avec plusieurs femmes. Ce qui n'est pas interdit, hein, d'ailleurs, pour l'instant. Je dis pour l'instant parce qu'on peut toujours se poser des questions. Mais il y a aussi des gens qui ont des doubles vies, ce qu'on appelle vraiment deux vies conjugales. C'était notre président Mitterrand, finalement, qui était un polyamoureux et qui, un jour, a dit à son premier ministre, il était allé au mariage de Lionel Jospin en parle dans son livre, « Vous savez, avec l'amour, il y a deux façons de faire. Ou comme vous, on divorce et on se remarie. Ou comme moi, on essaye d'aimer ensemble les femmes qu'on aime. » Et je trouve qu'il avait complètement résumé la situation. Il y a deux façons de faire. Alors moi, j'ai pas du tout envie de recevoir les gens. J'ai vraiment un foyer familial, ma maison avec mes enfants. Ce qui n'empêche pas que de temps en temps, un homme puisse venir me chercher pour dîner ou autre. Mais je ne les emmènerai pas dans mon lit conjugal, ni dans mon lit personnel. Parce que même chez moi, j'ai aussi un territoire personnel. De temps en temps, j'ai envie de dormir seule. Donc j'ai un endroit pour ça, ou bien je vais chez les gens quand ils peuvent me recevoir. Il y a d'autres personnes qui, au contraire, trouvent que c'est tellement agréable de pouvoir être ensemble tout le temps et donc d'être à 3 ou 4 personnes. Donc là, c'est pareil, c'est un choix très très individuel.
Vous annonciez, François Saint-Père, que dans la nouvelle édition de cet ouvrage « Aimer plusieurs hommes », vous aviez ajouté certaines pages concernant la jalousie et les enfants. La jalousie, vous venez de l'évoquer, justement, ce sentiment qui nous dévore tous. Comment est-ce qu'on peut gérer ça ou ne pas le ressentir ?
Alors, je pense qu'on ne peut pas décider de ne pas être jaloux. Ça, c'est impossible. C'est comme la peur, puisque la jalousie, c'est un peu une sorte de peur. Hein. C'est la peur d'être quitté, la peur d'être abandonné, la peur que l'autre soit plus beau ou plus belle que vous. Donc, on ne peut pas lutter contre, et une peur non plus. Et alors, je me suis rapportée à mon expérience. J'étais une aquaphobe. J'avais très peur de l'eau étant jeune, et j'ai fait un stage avec un formateur là-dessus, et je lui ai dit, écoute, je sais que je devrais flotter, c'est idiot, mais j'ai peur, c'est plus fort que moi. Et il m'a répondu, c'est normal, parce que si tu étais plus forte que ta peur, tu n'aurais pas peur. Bien, la jalousie, c'est pareil. Si vous luttez contre en vous disant, je ne dois pas être jalouse, mais enfin, quand même, cette fille ou ce mec, etc., c'est impossible et vous serez malade. Donc, il faut admettre qu'à certains moments, on a un pincement au cœur. Et puis, se poser des questions du genre, qu'est-ce que ça change vraiment à la marche du monde et même à la marche de ma vie, que tel ou tel homme que j'aime puisse trouver du bonheur, du plaisir ou de l'amour avec quelqu'un d'autre. En fait, ça ne change rien. Et ça change pour son ego. Et donc, c'est un travail sur l'ego de se dire, je suis quelqu'un de très bien, parce qu'il faut avoir confiance en soi, mais en même temps, je ne suis pas universelle. Mais surtout, ne pas essayer de dire, je ne dois pas être jalouse, ce n'est pas bien, on n'y arrive pas dans ces conditions. Alors donc, j'explique sur quelques pages comment, en douceur, apprivoiser la jalousie et s'apercevoir un jour que, comme m'avait dit ma maman, qui fut mariée très très jeune, qui d'ailleurs n'a eu qu'un homme dans sa vie, vous voyez comme quoi c'est pas héréditaire ce genre de choses, mais qui m'avait dit, tu sais, il y a des moments j'ai été très jalouse parce que mon père était beau, séducteur, etc. Et puis quand j'y pense maintenant, après tant d'années, c'était normal qu'il ait envie de plaire, il était timide, ça le rassurait, et pourquoi lui ai-je fait tant d'histoires ? Et donc, je trouve que, justement, avec ce genre d'exemple où on voit des couples qui se sont aimés jusqu'à la mort, tout en traversant des périodes de jalousie, on sait que ça n'est pas invincible, mais qu'il faut le prendre tout doucement. Il ne faut pas se brutaliser.
Et les enfants, le chapitre concernant les enfants, alors, vous avez vu vos filles grandir, vous en parlez avec elles, et en même temps, vous vous rendez compte que dans d'autres couples, ça pose problème aussi, ou en tout cas, il faut harmoniser tout ça.
Alors, le plus difficile, c'est effectivement que lorsqu'on a des enfants, on prend la plus grosse responsabilité de sa vie. Et ça, je crois qu'en plus, les amoureux pluriels en sont très conscients. Parce qu'ils hésitent vraiment avant d'en faire. Donc, je crois que ça doit être ça. Et après, c'est comment on leur explique comment on vit. Parce que leur expliquer, c'est-à-dire l'une de mes filles, ça je l'avais même raconté dans la première version, nous avait dit très simplement, bah toi, t'as papa et tes amoureux, et papa, il a toi et ses amoureuses. Ce qui me semblait d'une simplicité biblique. Mais le problème, c'est qu'il y a l'entourage, les petits copains. Et les petits copains ne comprennent pas, parce qu'ils sont dans d'autres milieux, monogames, bourgeois. Alors, ils font des réflexions du style, tu en as vu ta mère sortir avec un monsieur qui n'était pas ton papa de chez toi. L'enfant répond, oui, je sais, mais en même temps se dit, je suis donc pas comme les autres. Et donc c'est ça qui est difficile à gérer, c'est de leur expliquer que oui, qu'il n'y a pas une seule façon de vivre, que papa et maman s'aiment, mais qu'ils ont aussi d'autres univers. Donc il faut leur expliquer et ne pas non plus leur dire, c'est comme ça que c'est bien de vivre, parce que après tout, elles peuvent aussi faire un choix totalement opposé. Alors ce qui était intéressant, c'est que j'ai vu avec mes filles aussi, qu'il n'y a pas de bonne façon de le dire, puisque j'ai deux filles, et les deux l'ont vécu de façon très différente. L'une ne voulait pas le savoir pendant un temps, et on en a parlé finalement relativement tard, quand elle a eu une vingtaine d'années, on a commencé à en parler beaucoup plus facilement. L'autre, on en a parlé beaucoup plus tôt. Et puis, il y a eu une période, elle se sentait effectivement, surtout l'âge du collège, qui est un âge très conformiste, elle se sentait un peu vilain petit canard au milieu des copains. Aujourd'hui, un peu vilain petit canard au milieu des copains. Aujourd'hui, où elles ont 22 et 28 ans, elles sont plutôt fières de ce qu'on a fait, heureuses de voir qu'on s'aime aussi, heureuses d'un tas de choses. Et puis, assez contente quand leurs copains demandent que je leur dédicace un de mes livres. Parce que finalement, ça, comment dire, ça officialise un petit peu le fait qu'elles sont dans une famille où tout va bien. Quoi.
C'est pas évident à faire passer non plus ça comme idée, mais est-ce que c'est plus difficile que dans les familles recomposées ? C'est aussi monogame, recomposé, c'est aussi des modèles très difficiles.
Alors je me demandais justement, parce que c'est difficile aussi de demander à ses enfants qu'est-ce qu'on pense, et parce qu'ils ne voudront pas vous faire de peine, donc c'était difficile. Et heureusement, ma fille, la cadette, a été interviewée plusieurs fois sans que je sois là. Mais par contre, j'ai vu les interviews après, et j'ai été très contente quand à un moment donné, elle a dit « Moi, la chance que j'ai eue, c'est que mes parents, ils étaient toujours là quand je vois tous mes copains qui vont une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. » Visiblement, ça leur posait problème. Un ami d'une de mes filles qui m'a dit « Oui, moi, mes parents, ils étaient très, très accrochés l'un à l'autre, n'empêche qu'ils sont quand même séparés, tandis que vous vivez très indépendants, mais vous êtes toujours ensemble. » Alors finalement, là, j'ai vu qu'il y avait des... Elles voyaient ça assez positivement. Et puis en même temps, elle le voit avec le recul. C'est-à-dire que cette même fille, quand un journaliste lui dit « Alors, tu veux vivre comme tes parents ?» Et elle a répondu, j'ai trouvé ça très intelligent, elle a dit « Mais je ne sais pas du tout comment je vivrai avec les hommes que j'aime, parce que ça dépendra aussi d'eux. Et ça dépendra du couple qu'on formera, et il sera différent avec chaque homme si j'en connais plusieurs. » Donc ça leur a donné au moins ça, c'est qu'elles ne se sont pas mises dans ce mythe du prince charmant unique. Elles savent déjà que l'amour, ça se construit à deux, et que ce n'est pas une chose qu'on modélise a priori, mais c'est une chose qu'on fait évoluer.
Dans le polyamour, quel est le sens qu'on cherche à donner à sa vie ? Parce que l'amour, on lui donne un sens, le couple, on lui donne un sens, le polyamour.
Alors là, je vais vous dire quelque chose qui va horriblement choquer, je suis sur toutes les femmes romantiques. Je pense que ça montre aussi que l'amour est très grandement surestimé, et le sexe aussi est très grandement surestimé. À partir du moment où on s'aperçoit qu'on peut vivre des relations tellement riches, mais que d'autres appellent, il y en a qui me disent un ton méprisant, mais c'est pas de l'amour que t'as, c'est des amitiés. Ben je dis oui, mais des amitiés du désir, tu appelles ça comment? Ah ben oui, mais... Et puis je m'aperçois que pour elle, l'amour, c'est la passion. Vous savez, cette passion où on se ronge, où on se fait du mal, et dont on doit souffrir. Moi, la passion, ça m'a jamais tenté. Alors, c'est peut-être d'ailleurs pour ça que j'ai bien réussi dans cette voie-là, parce que je n'ai jamais été à me ronger totalement, sauf quelques rares périodes hormonales. Voilà. Mais je pense réellement que l'amour, tel qu'on le montre dans les livres ou dans les films, est très surestimé, qu'il y a des problèmes tellement plus importants dans le monde. Quand on voit qu'en ce moment, bah, vous, en Belgique, vous avez des problèmes de gouvernement qui n'existent plus, et je vous dirais, passez-vous-en, parce que les gouvernements sont pas si forts que ça. Quand on s'aperçoit qu'on est en train de ruiner un pays comme la Grèce, qui était le pays de l'art de vivre et de la culture, eh bien franchement aujourd'hui ça me préoccupe infiniment plus que de savoir si un homme que j'aime va aller coucher ailleurs.
Et donc le sens de tout ça pour vous, le sens profond?
Le sens profond, c'est que, bien, par exemple, ce soir, je vais rencontrer des gens qui s'y réfléchissent sur les amours pluriels. Et je sais d'avance, sans même les rencontrer, que je vais rencontrer des gens qui sont riches au point de vue humain, qui s'intéressent, si je devais vous donner, un portrait robot, mais en tout cas des tendances que j'ai trouvées. Ce sont des gens qui ont souvent des recherches dans la spiritualité et dans le développement personnel, qui s'intéressent aussi beaucoup à l'écologie, parce qu'en fait, on cherche une biodiversité amoureuse. Et finalement, la biodiversité, c'est la source même de la vie, on le dit pour la culture, on le dit pour les énergies, pourquoi on ne le dirait pas pour les amours? Je pense que la monogamie, c'est comme la monoculture, ça stérilise les cœurs et les sentiments, et ça stérilise même le sol et la jachère d'une personne. J'ai découvert avec les hommes que j'ai connus des choses que je n'aurais jamais découvertes si je n'en avais connu qu'un, et ça n'empêche pas non plus que tous m'ont apporté des choses très riches, ils ne sont pas en rivalité. Alors c'est un peu comme les fleurs dans un champ aident le blé à pousser, par exemple. Donc ça m'aura apporté le fait de rencontrer des gens vraiment extraordinaire, oui. Et que cette découverte humaine, quand on voit comment sont malheureux les traders qui ne trouvent de bonheur que dans l'argent, et c'est même plus de bonheur, c'est une toxicomanie, et parfois aussi ils ont des véritables toxicomanies, eh bien nous, finalement, nous arrivons à vivre du bonheur d'être ensemble entre humains. Voilà, et c'est ça que ça m'aura apporté, oui, certainement.
Vous disiez que les sites sont en train de fleurir partout, et ça, ben, fatalement, Internet est là pour nous permettre de communiquer entre nous. Est-ce que c'est important? Est-ce que vous, en tant que journaliste, puisque vous êtes aussi journaliste et écrivaine érotique, ça vous permet aussi d'avancer dans le regard que vous portez sur, à partir de votre expérience, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde?
Oui, bien sûr. En tant que journaliste, je regarde vraiment ce phénomène. Je vais assez régulièrement sur les sites pour voir. J'y rencontre justement, j'y trouve des discussions d'un haut niveau. Au départ, j'avais un petit peu peur. Je m'étais dit, oh là là, ça va être un ramassis de gens libertins qui vont chercher que des aventures sexuelles. Eh bien, il y en a très peu, vraiment très peu. Et puis, au contraire, il y a une épaisseur dans la discussion qui est intéressante. Et puis, c'est drôle aussi parce que ce sont des gens qui ont de l'humour aussi, justement, qui ont pris du recul par rapport à tout cela. Alors, je trouve que les échanges sont intéressants. On voit que c'est aussi un peu différent selon la Belgique, ou la France ou le Québec, donc on voit aussi que c'est très culturel l'amour, et donc on aurait tort d'imposer un seul modèle, parce que ailleurs on vit autrement, alors pourquoi aurions-nous le seul? Et puis il y a des choses drôles, j'ai découvert sur Facebook qu'il y avait un groupe des fans de Il n'est jamais trop tard pour aimer plusieurs hommes, donc le titre de mon premier livre. Alors j'y suis allée, je m'y suis inscrite, et j'ai rencontré plein de gens qui étaient là, que j'allais dire me rendant un culte, je ris hein, en disant ça bien sûr, mais c'était très sympathique de se dire que sans le savoir, j'avais pu faire du bien aux gens. Et au fond, c'est agréable parce que finalement, on se dit, au fond, ce qui donne un sens à la vie, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est quand même de se dire, mon passage sur Terre n'aura pas été totalement inutile. Eh bien, si j'ai pu apporter quelque chose à des gens, ne serait-ce qu'en les déculpabilisant, puisqu'on est dans une société qui veut tellement faire peur et culpabiliser, eh bien, j'en serais contente. Et en tant que journaliste, je suis ça aussi, parce que ça m'amuse de voir que des magazines qui autrefois me regardaient comme une étaillée échevelée et certainement dangereuse, aujourd'hui me regardent comme une, comment ils ont dit ça, un auteur de référence et quelqu'un de bien. Ça fait quand même assez plaisir. Mais il faut du temps, hein. C'est quand même, ça fait quand même 30 ans que je suis sur ce combat.
Et donc, dire que Françoise Saint-Père n'a rien à voir avec Catherine Millet.
Ah, je crois que ça n'a rien à voir. La preuve, c'est que Catherine Millet, elle a raconté dans sa vie sexuelle une des aventures uniquement sexuelles, puisqu'elle avait même une phrase qui disait à peu près « 40 bits sur lesquels je serais incapable de mettre un visage ». Alors déjà, 40, je trouve que c'est beaucoup pour une soirée. C'est certainement au-delà du plaisir qu'on peut avoir. Donc je ne sais pas si elle était dans une démarche de plaisir. Moi, je suis quand même dans une démarche de plaisir et de bonheur. Et puis par ailleurs, elle a écrit après, tout récemment, un livre sur la jalousie où elle a montré qu'elle avait été absolument rongée à l'idée que l'homme de sa vie avait pu aimer quelqu'un d'autre. Donc elle est totalement à l'opposé finalement. Elle a connu certainement sexuellement plus d'hommes que moi, mais peut-être moins d'amour.
Et l'amour, c'est donc le moteur aussi de votre vie?
Oui, mais l'amour au sens plus large du terme, un peu comme j'aime la Terre, comme j'aime la planète, comme j'aime les gens, c'est-à-dire une espèce d'intérêt pour ce qui se passe. Voilà, c'est pas l'amour au sens de la possession, ça certainement pas.